Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, le nombre de visas a diminué de moitié pour les Algériens et Marocains, d'un tiers pour les Tunisiens. Alors que droite et extrême droite veulent durcir les règles de l'immigration, le gouvernement affiche sa fermeté. Trois frégates vendues à la Grèce pour oublier les 12 sous-marins annulés par l'Australie. Contrat signé ce matin par Emmanuel Macron qui ajoute cette phrase.
Les Européens doivent sortir de la naïveté. Montrer que nous avons avec nous aussi la puissance. C'est simplement nous faire respecter.
Récit complet, Bertrand Galichet. Comment éviter l'explosion de la facture de gaz, plus 12% encore vendredi prochain? Conseil avec le médiateur de l'énergie. Tension partout d'ailleurs sur l'énergie. La Chine fait face à des coupures de courant exceptionnelles. Les vaccins anti-Covid et anti-grippe en même temps, aucun danger selon la Haute Autorité de Santé. À l'école, nouveau protocole sanitaire en test dans 10 départements pour limiter les fermetures de classe. Sanofi abandonne son projet de vaccin à ARN. Prometteur, mais trop tard. Dans l'actualité encore, un premier ministre pris en filature par une mafia, c'est aux Pays-Bas. Les retards de l'après-Covid, 2 mois pour obtenir des papiers d'identité à La Rochelle. Le PSG est-il vraiment plus fort avec Messi? Vérification ce soir face à Manchester City. Et puis vos rendez-vous jusqu'à 14h, un nouveau statut pour les directeurs d'école. C'est à l'Assemblée demain. Jusqu'où faire bouger les choses? Pouvoir de recrutement ou d'évaluation des enseignants? J'attends vos questions et témoignages. Professeur, directeur, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Dans le vif de l'histoire, l'histoire d'une tombe surmontée d'une statue de Brancusi. Peut-on retirer la statue pour la vendre, comme le veuillent les ayants droit de la défunte? Et puis c'est Marc Lévy qui est au micro de Frédéric Pommier dans C'est une chanson. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
À l'heure où Marine Le Pen présente un projet de référendum sur l'immigration, le gouvernement annonce une réforme qui retient l'attention. La baisse, présentée comme drastique, du nombre de visas délivrés aux Marocains, Algériens et Tunisiens. Ce sont les trois premiers pays de naissance des immigrés arrivés en France en 2019. 2020 a été une année particulière avec le Covid. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Réforme d'ampleur.
Gros coup de pression. En tout cas, ça fait longtemps que cette menace plane sur le Maghreb. La France va dans les prochains jours réduire de moitié le nombre de visas délivrés aux Algériens et aux Marocains et d'un tiers aux Tunisiens. Or, ce sont les trois pays auxquels la France accorde le plus de visas. 765 000 en 2019. Regroupement familial, raison de santé, travail, études, tourisme. Cette sanction aura un impact très fort. Depuis le début de l'année, 3/4 des demandes de visas sont acceptées. Le tri sera désormais drastique.
Et c'est un message en direction des pays du Maghreb.
Oui, c'est avant tout un bras de fer diplomatique. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'année, combien d'Algériens ont été réellement expulsés? 22. 22 personnes, alors que la France a émis 7700 obligations de quitter le territoire. 0,2% d'exécution, parce que l'Algérie ne délivre pas de laissez-passer consulaire, le document qui permet l'expulsion. Et les voisins ne font pas mieux, 2% de retour au Maroc, 4% en Tunisie. Cela fait en tout près de 15 000 personnes toujours sur le territoire français, alors que le ministère de l'Intérieur exige leur départ. Bien sûr, le gouvernement précise qu'il peut revenir à tout moment sur cette sanction si Algérie, Maroc, Tunisie accueillent leurs ressortissants.
La dimension politique de l'affaire n'échappe à personne, Maxence.
Évidemment, la décision a été prise cet été, mais on l'apprend aujourd'hui, quelques heures avant que Marine Le Pen défende son référendum anti-immigration. Vous en avez parlé au moment où Éric Zemmour ne cesse de faire la une, où la droite l'accuse de laxisme. Emmanuel Macron veut envoyer un signal, non pas une promesse de campagne, mais une décision pour montrer qu'on est toujours dans l'action, précise un conseiller du pouvoir, et que ça ne date pas d'aujourd'hui, rappelant que le texte asile-immigration fut l'une des premières lois du quinquennat. Il y a 2 ans, Emmanuel Macron avait promis 100% d'expulsion effective à la fin de son quinquennat. Il sait très bien que ce chiffre 0,2% sera brandi comme un symbole, une preuve d'impuissance. La sanction d'aujourd'hui peut changer la donne.
Alors, baisse de moitié des visas délivrés aux Marocains et Algériens, un tiers pour les Tunisiens, on en est au stade de l'annonce. Comment va-t-elle s'appliquer précisément? Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Les associations de soutien aux migrants sont dans l'expectative et s'inquiètent d'un durcissement des règles.
Oui, car tous les visas pour les Maghrébins doivent voir leur nombre baisser. Mais Stéphane Maugendre, avocat et président honoraire du GISTI, le groupe d'information et de soutien aux immigrés, demande des précisions.
Ça va toucher qui? Est-ce que ça va toucher les conjoints de Français, les parents d'enfants français? Ça me paraît être difficile. Ça va donc jouer sur les candidats au tourisme ou au travail sur le territoire français qui respectent la loi. C'est taper aussi sur des entreprises qui sont demandeuses mais qui ne trouvent pas sur le marché en France. Je pense que le gouvernement français tape à côté de la plaque.
Et pour les associations, la baisse des visas ne va pas réduire les flux migratoires. Bien au contraire, s'inquiète Laure Palin, la directrice de l'ANAFE, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers.
Le fait de restreindre l'accès au visa entrave de facto les mobilités internationales, mais du coup les personnes vont souvent, et on le voit au quotidien, prendre des chemins beaucoup plus dangereux. Ça peut pas restreindre l'envie de quitter son pays, et on le sait, on le voit sur des politiques qui sont menées depuis des dizaines d'années. Ça va empêcher les gens de monter dans des avions en fait, et du coup de prendre des voies qui sont, disons, sûres pour accéder au territoire européen.
D'autant que depuis le début de la pandémie, les demandes de visa ont déjà drastiquement chuté au Maghreb. Le dépôt des dossiers est rendu plus que difficile par les mesures sanitaires.
L'immigration, sujet de ce début de campagne, c'est cet après-midi que Marine Le Pen présente son référendum pour réguler drastiquement, dit-elle, l'immigration. Elle veut introduire la préférence nationale également. Les différents candidats de droite, eux aussi, veulent durcir les règles. Chez les écologistes, c'est à 17h30, en principe, qu'on saura qui de Sandrine Rousseau ou Yannick Jadot a remporté la primaire. Les 122 000 inscrits ont jusqu'à ce soir 17h pour voter. Chez les LR, c'est le 4 décembre, en congrès, que le candidat sera choisi. Et les candidats éventuels, ceux qui ne sont pas encore déclarés, ont jusqu'au 13 octobre pour se manifester. Éric Zemmour n'aurait rien à faire dans la liste des candidats, précise le patron du parti, Christian Jacob. La somme n'est pas la même, c'est clair et net, mais elle est loin d'être négligeable. Après la perte du contrat à 56 milliards d'euros pour les sous-marins en Australie, la France signe un accord avec la Grèce pour l'achat de 3 frégates, option pour une 4e. Emmanuel Macron et le Premier ministre grec ont signé ce matin, les navires seront construits à Lorient. Le montant du contrat, Bertrand Galichet, est estimé à 3 milliards d'euros.
Deux semaines après avoir annoncé son intention d'acquérir 6 rafales supplémentaires, la Grèce renforce son dispositif militaire en commandant ses frégates, un programme d'armement destiné à se prémunir de la Turquie, qui pousse ses pions en Méditerranée orientale. La France reste aux côtés de la Grèce, rappelle Emmanuel Macron, qui en profite pour insister sur une nécessaire défense européenne.
Les Européens doivent sortir de la naïveté. Lorsque nous sommes sous l'effet de pression, de puissances qui parfois se durcissent, réagir, montrer que nous avons avec nous aussi la puissance et la capacité à nous défendre n'est pas céder à l'escalade, c'est simplement nous faire respecter. La deuxième remarque, c'est que les États-Unis d'Amérique sont des grands alliés historiques. Mais nous sommes obligés de constater que depuis maintenant un peu plus de 10 ans, les États-Unis d'Amérique d'abord se concentrent beaucoup sur eux-mêmes et ont des intérêts stratégiques qui se réorientent vers la Chine et le Pacifique. Nous commettrions une terrible erreur à ne pas vouloir en tirer toutes les conséquences et le constater pour nous-mêmes.
Cette doctrine s'inscrit en parfaite cohérence avec nos engagements à l'Union européenne et à l'OTAN, explique Emmanuel Macron, qui met donc à profit ce contrat pour envoyer un message fort aux Européens et aux États-Unis.
Emmanuel Macron à l'Élysée ce matin à Lyon, hier dans les allées du Salon international de la restauration. Le jeune homme qui lui a lancé un œuf et a raté sa cible a été interné en psychiatrie. Un examen a conclu à l'abolition de son discernement au moment des faits. C'est un étudiant de 19 ans qui n'avait jamais eu affaire à la justice. Il a été interpellé tout de suite après les faits. Il n'y a aucun danger à recevoir le même jour le vaccin contre la grippe et une dose de vaccin anti-Covid. La Haute Autorité de Santé le précise, alors que dans les semaines à venir, entre doses de rappel anti-Covid et piqûres habituelles contre la grippe, les calendriers vont se chevaucher, Véronique Julia.
Finalement, les publics du rappel et du vaccin contre la grippe sont les mêmes. Ce sont les personnes fragiles, les personnes âgées en particulier. Et comme la campagne de vaccination contre la grippe va commencer le 26 octobre prochain, autant faire d'une pierre deux coups. On fait les deux vaccins à la fois quand c'est possible. La Haute Autorité de Santé l'avait déjà recommandé fin août. Elle vient de confirmer cette semaine que c'est non seulement opportun, mais aussi sans impact sur l'efficacité vaccinale. Elle craignait en effet au départ que la co-administration des deux vaccins altère la réponse immunitaire pour chacun d'entre eux. Elle est finalement rassurée par une étude récente, comme l'explique le professeur Daniel Floret. Il est spécialiste des maladies infectieuses à la HAS.
Nous disposons maintenant de premiers résultats d'une étude qui a été menée en Angleterre, qui montre bien que la co-administration d'un vaccin Covid et d'un vaccin contre la grippe ne génère pas d'interférence de la réponse immune entre ces deux vaccins. D'autre part, ça n'entraîne pas d'effets indésirables.
La précaution, ce sera juste de ne pas faire les deux vaccins sur le même bras. Et pour le cas où l'administration des deux injections ne serait pas possible le même jour, il n'y aura pas, précise la Haute Autorité de Santé, de délai à respecter entre les deux.
Près des trois quarts des Français ont reçu au moins une dose de vaccin. Presque autant, 71% ont un schéma vaccinal complet. Le rythme ralenti depuis plusieurs semaines. Et dans ces conditions, nouvelle impasse pour Sanofi et son projet de vaccin à ARN messager. Le laboratoire français interrompt le projet. En résumé, Anne Lordanier, Sanofi affirme qu'il est prometteur, mais c'est trop tard. Cela dit, le laboratoire poursuit le développement de son autre vaccin, pas ARN, mais toujours anti-Covid.
Plutôt que de reconnaître un échec, Sanofi préfère mettre en avant son deuxième vaccin contre le Covid, celui à protéines recombinantes qu'il développe avec le britannique GSK. Ce vaccin devrait être disponible à la fin de l'année pour des premières injections dans les pays où la population est peu vaccinée, mais aussi en dose de rappel. Et là, il y a un hic, puisque la Haute Autorité de Santé préconise les vaccins à ARN messager en rappel. Alors pour le moment, ça ne concerne que les personnes les plus fragiles, notamment les plus de 65 ans. Et le responsable de Sanofi Pasteur, Thomas Triomphe, pense que son vaccin aura son public.
Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde va être vacciné avec cette troisième dose de rappel à ARN messager ? Certaines personnes pourront hésiter. Si c'est le cas, c'est là que nous fournirons nos données, si elles sont utiles. Quid d'un éventuel quatrième rappel, une quatrième dose, pardon. S'il y a besoin, dans un an ou dans deux ans, d'une vaccination de rappel, encore une fois avec une plateforme différente, on serait au supplice et au regret de ne pas l'avoir développé.
Sanofi met en avant les atouts de ce vaccin à protéines recombinantes. Il se conserve au frigo, entre 2 et 8 degrés. On peut l'injecter en dose de rappel après n'importe quel vaccin et il coûtera moins de 10 euros la dose.
Et en France, alors que l'épidémie de Covid continue de régresser, un nouveau protocole sanitaire va être testé dans les écoles primaires, maternelles et élémentaires donc, d'une dizaine de départements. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Spécialiste des questions d'éducation à France Inter, Jean-Michel Blanquer l'a confirmé ce matin. Cela laisse pas mal de questions ouvertes.
Oui, alors vous savez, actuellement, dans les écoles primaires, on ferme la classe dès le premier cas de Covid. Désormais, dans ces départements tests, seuls les cas positifs seront isolés. Jean-Michel Blanquer l'a précisé ce matin sur France Info.
L'expérimentation consiste, à chaque fois qu'il y a un cas positif, à tester toute la classe et à ne renvoyer à la maison que ceux qui sont positifs. On verra si cela change vraiment la donne. Probablement dès le début de la semaine prochaine, en tout cas on est à pied d'œuvre avec le ministère de la Santé déjà depuis de nombreux jours pour lancer cette expérimentation.
Mais cela implique une solide organisation en matière de tests, car les cas peuvent se déclarer au fur et à mesure, donc il faudrait tester les élèves plusieurs fois. Le ministère doit trouver des laboratoires qui sont en mesure d'effectuer ce dépistage rapproché et de donner les résultats quasiment instantanément pour isoler les cas positifs au plus vite. C'est la principale difficulté. Le déploiement des tests dans les établissements scolaires patine depuis 6 mois. À peine 160 000 tests réalisés la semaine dernière pour plus de 12 millions d'élèves. On manque de personnel pour les pratiquer. Il faut aussi recueillir l'autorisation des parents qui sont souvent réticents. Pour cette expérimentation, le test sera obligatoire. Si les parents refusent, leur enfant devra rester à la maison pendant 7 jours. Mais en cas de test, les résultats sont communiqués aux familles seulement. L'école n'y a pas accès, ne peut donc pas vérifier. Toutes ces questions sont complexes et on peut douter d'une mise en place dès la semaine prochaine.
À 13h30, la porte-parole du SNUIPP FSU, Guylaine David est l'une de nos invitées. On lui posera une question sur ce protocole, SNUIPP-FSU, premier syndicat du primaire. Mais elle vient avant tout pour parler des directeurs d'école. Est-ce qu'ils doivent pouvoir recruter, devenir les supérieurs des autres enseignants pour plus d'efficacité? À ses côtés, il y aura la députée En Marche, Cécile Rilhac, qui présente demain à l'Assemblée une proposition de loi sur le statut des directeurs d'école. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir pour vos questions et témoignages.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Ça sent le gaz pour les économies d'au moins 3 millions de foyers qui sont au tarif réglementé. Ce tarif réglementé aura augmenté de plus de 50% depuis le début de l'année, plus 12,6% encore ce vendredi, le 1er octobre, pour ceux qui utilisent le gaz pour tout, en particulier cuisine, salle de bain et chauffage. C'est la conséquence de la très forte hausse du cours mondial du gaz lié à la reprise économique après le Covid. Alors comment contenir la facture? Invité de ce journal, la directrice générale des services du médiateur national de l'énergie, Frédéric Ferriot. Bonjour madame.
Bonjour.
Je dis 3 millions de foyers, mais c'est davantage car au-delà d'Engie, d'autres fournisseurs proposent des prix indexés sur le cours du gaz. Ça fait combien de foyers en tout ?
Alors ça fait environ 5 millions de foyers, 3 millions qui sont titulaires d'un contrat au tarif réglementé et environ 2 millions qui ont un contrat à prix indexé sur les tarifs réglementés.
Alors comment éviter que la facture explose ? Quelle solution ?
Alors, il y a aussi d'autres types de contrats, hein, qui sont des contrats à prix fixe, dans lesquels le fournisseur va s'engager à maintenir le prix de l'énergie, c'est-à-dire le prix du kilowattheure fixe pendant une certaine durée. Et donc, ça permet d'échapper aux fluctuations des prix du gaz actuel en bloquant le tarif à un instant donné. Donc, si les prix du gaz continuent à augmenter pendant les prochains mois, ce qui a priori semble être la prévision des économistes, ça permet de se prémunir des hausses à venir.
Un contrat à tarif fixe, on peut changer facilement de fournisseur ?
Oui, bien sûr, les consommateurs ne le savent pas suffisamment, mais dans l'énergie, c'est très facile de changer de fournisseur. Il suffit de souscrire un contrat avec un autre fournisseur et ça va entraîner la résiliation automatique de l'ancien contrat. Et c'est une opération qui est gratuite, automatique et sans risque de coupure de gaz.
Vous expliquez tout sur votre site energie-info.fr. Il n'y a pas un risque que lors de la conclusion d'un nouveau contrat, les fournisseurs augmentent la note. Eux aussi, après tout, doivent composer avec l'augmentation des prix de gros du gaz.
Alors, quand on signe un contrat, on vérifie les prix qui sont mentionnés sur le contrat. Et donc, les prix qui vont s'appliquer, ça va être ceux qui sont sur le contrat que l'on a signé. Après, ce qui est certain, c'est que tous les fournisseurs sont impactés par la hausse des prix et qui vont certainement revoir aussi leur grille tarifaire à partir du 1er octobre.
Au-delà de cette hypothèse, est-ce qu'on peut négocier un lissage de la facture dans les semaines, voire les mois à venir ?
Alors, un lissage de la facture, tout dépend ce que vous entendez par lissage. Vous pouvez lisser le paiement de vos factures avec la mensualisation.
Oui.
Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà, indépendamment des évolutions de prix. Et ce que la Commission de régulation de l'énergie, qui encadre les tarifs réglementés de vente de gaz, a indiqué dans sa communication d'hier, c'est qu'elle est en train de réfléchir avec l'administration sur la façon qu'elle pourrait mettre en œuvre pour essayer de lisser ces augmentations de prix, puisque l'on s'attend à ce qu'à partir du printemps ou à l'été prochain, les prix baissent à nouveau. Mais pour l'instant, rien n'est ficelé.
Alors, Madame Ferriot, les prix de l'électricité sont corrélés à ceux du gaz. Est-ce qu'il faut aussi regarder de très près sa facture d'électricité, éventuellement changer de fournisseur?
Alors, pour l'instant, les tarifs réglementés de vente d'électricité ne bougent pas. Oui. Ce que l'on anticipe, c'est qu'il y aura un mouvement tarifaire en début d'année prochaine. Donc, certains annoncent une hausse qui serait de l'ordre de 10%. Moi, je ne sais pas dire quel sera le pourcentage d'évolution. Mais effectivement, on peut s'attendre à ce que les tarifs réglementés de vente d'électricité augmentent aussi en début d'année prochaine. Donc, il n'est pas forcément incohérent de se renseigner aussi, de comparer les offres d'électricité. Et pourquoi pas d'anticiper cette probable augmentation en souscrivant dès à présent un contrat à prix fixe. Ça permettra de bénéficier aussi des prix de fin d'année. Les fournisseurs d'électricité, si les tarifs réglementés augmentent, vont probablement aussi augmenter leurs prix.
Le cas échéant, c'est facile aussi de changer de fournisseur d'électricité. C'est la même logique que celle que vous expliquez.
C'est exactement la même logique. Mmh. Et information quand même importante, dans l'énergie, le consommateur n'est pas engagé dans la durée avec le fournisseur qu'il choisit. Le fournisseur s'engage, par exemple, à bloquer ses prix pendant un an, deux ans, trois ans, voire plus. Le consommateur, lui, peut décider de changer de fournisseur à tout moment et il ne sera jamais, en tant que particulier, facturé de frais de résiliation anticipés, comme ça peut être le cas dans d'autres domaines, par exemple dans la téléphonie mobile. On peut avoir des conditions avantageuses si on reste client 12 mois, c'est pas le cas dans l'énergie.
Merci Frédéric Ferriot, et je précise qu'au-delà du chèque énergie de 100 € pour 6 millions de foyers en décembre, le gouvernement envisage de nouvelles mesures de compensation de ces hausses des prix de l'énergie. Pas plus de détails pour le moment. C'est dans le monde entier, en fait, qu'il y a une tension entre demande et offre d'énergie depuis que les activités ont repris après les mois de confinement. Et l'immense Chine fait face à d'importantes coupures de courant sur presque tout le territoire. On parle du premier exportateur mondial. Le sujet est donc planétaire, Stéphane Pambrin.
Ce sont les gigantesques industries manufacturières du pays qui sont les premières touchées, des fonderies d'aluminium aux producteurs de textiles, en passant par les usines de transformation du soja. Elles ont reçu l'ordre de réduire leur activité ou dans certains cas de fermer purement et simplement. 44% des industries du pays sont concernées. En cause, la hausse de la demande en électricité, la flambée des prix du charbon et du gaz, mais surtout l'obligation de remplir les objectifs stricts de Pékin en matière de réduction des émissions carbone. Près de la moitié des régions chinoises ont dépassé ces objectifs et sont maintenant sous pression pour couper l'alimentation. Parmi les plus touchés figurent les régions du Jiangsu, Zhejiang et Guangdong, un trio de puissances industrielles qui représentent près d'un tiers de l'économie chinoise. Cette crise de l'énergie commence même à toucher les foyers. Dans le sud du pays, la province du Guangdong a ainsi demandé aux habitants de privilégier la lumière naturelle et de limiter l'utilisation des climatiseurs. Cette crise énergétique est en partie provoquée aussi par la volonté du président Xi Jinping de garantir un ciel bleu aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février prochain. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
Au Royaume-Uni, face à la pénurie de carburant, les organisations de médecins et d'infirmiers demandent un accès prioritaire aux stations-service qui ont encore de l'essence. En France, sans atteindre ses proportions, l'effet bouchon, reprise des activités après les mois de confinement, provoque pénurie et délais dans toute une série de domaines de la vie quotidienne. Les papiers d'identité, par exemple, à La Rochelle, Solène Gardré, c'est un enfer.
Au moins 2 mois pour avoir sa carte d'identité. Alors, quand elle a appris la nouvelle, Marie-Jeanne s'est ruée au service d'état civil.
Ce matin, en regardant sur mon application La Rochelle, je me suis aperçue qu'ils étaient submergés. Alors, j'ai dit à mon mari, il faut absolument qu'on y aille. Parce que, voilà, j'ai un rendez-vous seulement le 29 octobre pour déposer mon dossier. Et je pense qu'on aura notre carte d'identité un mois après.
À la sortie, Antoine est dépité. Il a perdu son portefeuille avec tous ses papiers. Et avec ce délai, ses vacances dans 2 mois sont compromises. Il se sent...
Un peu énervé parce que c'était déjà des vacances prévues et tout. Donc, je sais que ça a été un peu long, mais pas autant, peut-être un mois et demi. Quoi. C'est vachement long quand même. Il m'a dit 1 mois pour avoir rendez-vous, il m'a dit 4 semaines pour qu'il le fasse et encore 1 autre mois pour le recevoir ici.
À La Rochelle, la mairie estime qu'il y aura 30 000 demandes cette année contre 20 000 une année normale. Mais l'adjoint au maire, Jean-Philippe Plaise, se veut rassurant.
Les demandes de titres de pièces d'identité demandent un peu plus de temps. C'est un embouteillage qui est conjoncturel, qui ne va pas s'éterniser. Il faut absorber le report des demandes de 2020 à 2021.
Dernière raison pour ces embouteillages, la nouvelle carte d'identité. Beaucoup veulent l'obtenir depuis sa mise en service en juin dernier.
Solène Gardré, France Bleu, La Rochelle. Là aussi, c'est la vie quotidienne dans une ville de près de 900 000 habitants. La grève des éboueurs continue à Marseille. Conflit avec la métropole à propos du temps de travail. Tous les fonctionnaires doivent être à 35 heures par semaine. Les syndicats estiment que vu la pénibilité du métier, les éboueurs doivent travailler moins. Les premiers ont cessé de vider les poubelles jeudi soir dernier. Plus de 4 jours donc dans certains quartiers. Bonjour Romane Porcon.
Bonjour.
En direct de Marseille, ça commence à se voir.
Ah oui, à chaque coin de rue, ce sont des dizaines et des dizaines de sacs poubelles qui s'accumulent. Yvette, 88 ans, est obligée de slalomer entre les détritus.
Ah, c'est dégueulasse, c'est affreux. Moi, je ne peux pas marcher, regardez, je marche difficilement. Il y a les rats, il y a tout. C'est sale, c'est très mal entretenu.
Alors, après quelques jours de grève, vous l'avez dit, l'odeur est déjà bien forte. Les rats sont de plus en plus nombreux à Marseille. Audrey, elle, n'est même plus habituée.
À Marseille, en habitude, on fait avec. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est l'odeur insupportable. Et ouais, c'est dégueulasse. Et c'est que les gens s'en foutent. Donc, ils remettent par au-dessus. Et voilà. On en a régulièrement des grèves de poubelles à Marseille. Et leur job est toujours aussi compliqué. Donc, ça nous dérange en tant que riverains et tout. Mais c'est le seul moyen qu'ils aient de se faire entendre. Et ouais, je peux comprendre qu'ils en aient ras-le-bol, ouais.
Et cette grève risque de durer, prévient Patrick Ruet. Il est secrétaire général de Force Ouvrière. Pour lui et ses agents, hors de question de travailler 35 heures par semaine.
Il faut savoir que dans une tournée, vous ne nous arrêtez pas, ne serait-ce qu'une minute. Ce n'est pas comme quand vous êtes à votre travail, vous allez des fois boire un café, ou vous allez passer un coup de téléphone au personnel. C'est 3h30 de travail intensif. C'est agréable pour personne d'avoir des poubelles devant sa porte, mais vous savez, on a des conditions que même si les Marseillais ont des difficultés, moi je veux leur dire, je répète, imaginez si demain votre patron vient vous dire que vous allez travailler 28 jours de plus, sans avoir un euro supplémentaire. Comprenez qu'aucun salarié de la fonction publique ou du privé n'accepterait cette condition.
Les syndicats se disent donc prêts à négocier. Ils attendent une compensation financière de la part de la métropole.
Romane Porcon, direct de Marseille pour France Inter. Quand la police redoute l'enlèvement ou l'attaque du Premier ministre, ça se passe aux Pays-Bas. Mark Rutte a été pris en filature par un groupe mafieux, Benjamin Hilly.
L'information fait les gros titres aux Pays-Bas. La sécurité du Premier ministre de centre-droit, renforcée le principal concerné, refuse de commenter. Et pourtant, des agents d'élite du service de protection royale et diplomatique ont bien été mobilisés. Mark Rutte est connu pour se déplacer à vélo, en toute simplicité, dans les rues de La Haye, avec un dispositif de sécurité en apparence plutôt léger jusqu'à maintenant, car la donne a changé. Selon le quotidien de Télégraphe, il a été pris en filature récemment par des guetteurs connus des services de police pour leur lien présumé avec un groupe criminel, la Mocromafia, des trafiquants de drogue d'origine marocaine et antillaise. Des guetteurs similaires ont été impliqués dans le meurtre en juillet du journaliste d'investigation Peter De Vries à Amsterdam et dans l'assassinat en 2019 d'un avocat qui représentait un témoin clé dans le procès du chef supposé de la Mokromafia. D'autres membres du gang sont d'ailleurs jugés en ce moment aux Pays-Bas, alors que le gouvernement s'est engagé fermement à combattre le crime organisé.
Des agents de sécurité dans la vraie vie aux agents secrets dans la fiction. Mourir peut attendre. C'est le nouveau James Bond, avant-première ce soir à Londres, la dernière pour Daniel Craig, sorti en France le 6 octobre. Le trio Messi, Neymar, Mbappé est-il à la hauteur de sa réputation? Pour l'instant, non. C'est le moment ou jamais de montrer le contraire. 21h ce soir, l'un des grands adversaires européens de Paris débarque au Parc des Princes. Deuxième match de Ligue des Champions de la saison. Manchester City, l'autre club tenu par un état pétrolier, les Émirats Arabes Unis. Messi, qui avait été touché au genou lors d'un match face à Lyon, sera bien là. Test à tout casser pour le trio dont tous disent qu'il est terrible, Thomas Couignac.
Oui, et le premier test avait plutôt été manqué pour ce trio pour la première journée de Ligue des Champions. Il y a deux semaines sur la pelouse du FC Bruges, Neymar, Mbappé et Messi jouaient pour la première fois ensemble. Aucun des trois fantastiques n'avait marqué et le PSG avait concédé un petit match nul un partout. Depuis, les trois n'ont que peu côtoyé les mêmes terrains, seulement 76 minutes supplémentaires ensemble, c'était contre Lyon, jusqu'à ce que Messi sorte donc blessé au genou. Et puis, ensuite, il y a eu de l'eau dans le gaz entre les deux autres étoiles parisiennes. Mbappé a même lâché une insulte captée par les caméras contre Neymar, coupable de ne pas lui avoir fait la bonne passe contre Montpellier le week-end dernier. Alors certes, officiellement, l'incident est clos, mais ces deux-là devront donc s'entendre ce soir entre eux et avec Messi, d'autant que le niveau sera beaucoup plus élevé face à Manchester City, finaliste de la Ligue des Champions l'an dernier, après avoir éliminé le PSG en demi-finale.
En tout cas, avec l'arrivée de Messi, une ville a vu fleurir les maillots du PSG. C'est Buenos Aires, en Argentine. Reportage Georges Quirino.
Dans le centre de Buenos Aires, impossible de passer à côté. Dans les galeries marchandes de la rue Lavache, et les faux maillots du PSG sont partout. L'officiel n'est pas encore arrivé en Argentine. René, un vendeur, a tout ce qu'il faut pour le nouveau supporter.
On a la casquette, le maillot, les chaussettes, le pantalon. On vend beaucoup, une quinzaine de maillots par jour environ. Il y a un vrai boom.
Les maillots du Barça ont été rangés, remplacés par ceux du PSG floqués du 30, dont les jeunes Argentins raffolent. Ezequiel, père de famille, l'a acheté pour son fils Benny et pour lui.
Mon fils m'avait demandé le maillot avant qu'il ne sorte. Il était comme un fou. Il a Messi dans le cœur, comme nous on avait Maradona. Avant, il voulait aller à Barcelone et maintenant, il veut aller à Paris. Donc on est en train d'économiser.
Une PSG mania visible dans les parcs de la ville. Dans ce groupe de 6 enfants jouant au football, 3 ont un maillot de Paris, comme Bautista, 11 ans, nouveau fan du club et de la capitale française.
On aime bien la Tour Eiffel, la bonne nourriture et les beaux endroits de Paris. J'aime beaucoup le PSG. Il y a de très bons joueurs. Maintenant, on est plus supporters de Paris qu'avant.
Et le coup d'envoi du match Paris-Manchester City, c'est à 21h ce soir. Dans un instant, la météo.
Il paraît que notre compte pro Conto dérange les banques. Mais chez Conto, on se demande bien pourquoi. Est-ce parce que nous proposons un compte pro à partir de seulement 9 euros hors taxes par mois? Peut-être. Ou parce que Conto permet une comptabilité simplifiée? C'est possible. Ou alors parce que Conto offre un service client disponible 7 jours sur 7. Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 200 000 entreprises ont déjà rejoint Conto. Finalement, c'est peut-être un peu tout ça qui les dérange. Conto, le compte au service des pros. Voir conditions sur conto.com.
Lily, ça vaut une petite pépite française. Vous voyez de quoi je parle? Non, c'est pas du gâteau. Je parle de son lit. Fabriqué en France, comme 78% des produits Camif. Craquez pour un lit enfant sur camif.fr. Camif, changeons le monde de l'intérieur.
France Inter aime...
Flag Day, le nouveau film de Sean Penn avec Sean et Dylan Penn.
The special moments of childhood are like fairy tales. And in mine, my father was the prince.
Dans l'Amérique profonde, les retrouvailles d'une jeune femme avec son père, un braqueur de banque, loser magnifique qui espère vivre le rêve américain.
I love you, baby. You're me and the same heart. You're peas in a pod.
Flag Day de Sean Penn, le 29 septembre au cinéma, un film France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Bonjour Jean-Michel Golinski.
Bonjour Bruno.
C'est ensoleillé près de la Méditerranée, c'est plus mitigé ailleurs.
Ah, effectivement, le ciel le plus durablement dégagé sera aujourd'hui pour la Corse, la vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon également sur la région PACA. Dans le triangle Ardennes-Centre-Grand Est, le soleil sera souvent voilé, surtout près de la Loire. Le long de la Manche, le temps maussade qui s'est installé ce matin par la Bretagne va progresser cet après-midi vers les pays de la Loire, la Normandie, la côte d'Opale, puis la nuit prochaine vers le nord et le bassin parisien avec un vent de secteur ouest de plus en plus modéré sur les côtes. Enfin, entre l'Aquitaine, les Pyrénées et le Limousin, le ciel incertain pourra lâcher quelques ondées, mais de très faible intensité cet après-midi. Dans des températures de 19 degrés en moyenne, au nord d'une ligne La Rochelle-Limoges-Lyon. Dans le sud-ouest, le maximum sera de 23 degrés pour le pays toulousain. Il fera 26 de Perpignan à Marseille et 27 degrés sur la Corse.
Jean-Michel Golinski, Météo France. Nous parlons à présent des directeurs d'école.
France Inter. Le 13-14. Bruno Duby.
Priorité à l'école primaire depuis le début du quinquennat, c'est la ligne du ministre de l'Éducation. Cela a commencé avec le dédoublement des classes de CP-CE1. Et en cette fin de quinquennat, les propositions concernent les directeurs d'école. Question générale, comment mieux valoriser cette fonction, mieux organiser l'enseignement, en particulier dans les écoles où les élèves sont le plus en difficulté? Comment attirer les meilleurs enseignants dans ces établissements? Alors il y a deux pistes. La première sera débattue demain à l'Assemblée nationale, une proposition de loi qui crée la fonction de directeur d'école. La seconde a été ouverte à Marseille au début du mois par le président de la République. Possibilité pour les directeurs d'école pilotes de choisir leurs enseignants. Qu'est-ce que cela change concrètement? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions et témoignages si vous êtes enseignant en primaire ou directeur d'école. Pour dialoguer avec vous, Cécile Rilhac, députée En Marche de l'Oise qui défend la proposition de loi débattue demain. Bonjour.
Bonjour, du Val d'Oise.
Du Val d'Oise, pardon. C'est à l'Assemblée demain. Et Guylaine David, porte-parole du SNUPPFSU. Bonjour.
Bonjour.
Premier syndicat dans le primaire. Une toute petite question d'actualité avant de venir au directeur d'école. Le protocole sanitaire, Guylaine David, en test dans 10 départements, Jean-Michel Blanquer, qui explique ce matin que on oublie la fermeture des classes au premier cas, mais que s'il y a un cas, on teste les élèves et seuls les cas positifs seront placés à l'isolement. Qu'en dites-vous ?
Alors, c'est une question qui se posait depuis un certain temps, hein, de ne pas fermer les classes et d'avoir justement la possibilité de tester massivement et de tester tous les élèves. Alors nous, on va plus loin parce qu'on aimerait bien que ça se fasse pas seulement là où il y a des cas positifs, mais que ça se fasse en amont et qu'on teste tous les élèves et que l'on permette à ceux qui sont négatifs d'aller en classe et ceux qui sont positifs de rester à l'isolement. C'est quelque chose qu'on défend comme le conseil scientifique depuis un certain temps. Là, c'est un premier pas, c'est dans 10 départements. C'est expérimental. On va voir comment se met en œuvre l'expérimentation. Ce qu'il faudrait voir, c'est que on va tester quand il y aura un cas positif dans une classe. Le risque, c'est qu'il y en ait dans les autres classes et on ne testera pas les élèves des autres classes. Et on sait que les enfants sont souvent asymptomatiques. Donc, c'est une question complexe qu'il faut qu'on continue de travailler avec le ministère.
Mais un premier pas, pas si mal.
C'est un premier pas qui pourrait permettre d'éviter de fermer des classes.
Alors, les directeurs d'école, venons-y. Une directrice est avec nous au 01 45 24 7000. Laurence Bourras, bonjour madame.
Bonjour monsieur.
Vous dirigez l'école maternelle Beaucaire, classée éducation prioritaire à Toulon. Vous êtes également membre du syndicat UNSA. J'ai une question toute bête pour commencer et qui permet de poser le décor. En quoi consiste votre travail? Qu'est-ce que vous faites de vos journées, madame?
Je fais énormément de choses dans mes journées puisque j'ai à la fois une charge d'école et à la fois une charge de classe. Donc oui. Deux jours par semaine, je suis dans ma classe en accueillant des élèves de 2-3 ans en toute petite section de maternelle. Et deux jours par semaine, je suis déchargée de classe pour m'occuper de toute la gestion administrative de l'école. Donc, gestion administrative qui est très très vaste, hein, puisque c'est la gestion des problématiques du quotidien, de la panne de photocopieuse à l'inondation voilà. Dans les sanitaires et aux parents de classe qui veulent leur rendez-vous, à la remontée des absences des collègues pour avoir un remplaçant. Voilà, donc c'est très très vaste en fait.
Y a-t-il quelqu'un pour vous épauler ?
Excusez-moi, j'ai pas entendu votre question.
Y a-t-il quelqu'un pour vous épauler ?
Pas du tout. Enfin, j'ai mes collègues qui essayent au mieux de gérer les projets de leur classe variés, oui. Mais depuis quelques années, nous n'avons plus d'assistance administrative et du coup, il n'y a pas de secrétariat Et c'est donc à moi qu'incombent aussi ces tâches du quotidien.
Restez en ligne, s'il vous plaît. Cécile Rilla, qu'est-ce que votre proposition de loi apporte en plus à la directrice qu'on vient d'entendre et au directeur d'école ?
La proposition de loi qui sera étudiée demain apporte le fait d'écrire dans la loi justement qu'il y aura désormais une aide administrative et matérielle, voilà, qui pourra être mise en place grâce à un partenariat État et commune. Ça, c'est la première demande des directeurs d'école. La deuxième demande, c'est justement de simplifier les tâches. Parce que madame le dit très bien, elle croule sous les tâches administratives. Elle n'a pas parlé des enquêtes ou des choses comme ça, mais qui sont aussi, qui leur prennent énormément de temps. Beaucoup d'allers-retours aussi pour demander des autorisations à leur inspecteur, justement pour valider les projets pédagogiques des collègues. Donc toute cette simplification des tâches, c'est aussi important pour que, justement, ils puissent se consacrer à quelque chose que madame n'a pas dit, mais qui est pourtant, à mon sens, le sens premier d'une personne qui se consacre à la direction d'école, qui est le pilotage pédagogique. Un directeur d'école, certes, il administre son école, mais il a aussi une grande fonction pour épauler, justement, pour accompagner les enseignants dans leur projet de l'école et leur projet de classe.
Qu'est-ce que vous mettez derrière ces deux mots, pilotage pédagogique? Ça veut dire quoi?
Derrière le pilotage pédagogique, c'est-à-dire mettre en forme les projets de classe et le projet d'école, qui est très important. Parce que toutes les écoles ne sont pas pareilles, vous le savez très bien, on a 45 000 écoles en France, avec des élèves différents, des territoires différents, des difficultés différentes des élèves. Et donc justement, c'est l'équipe pédagogique qui, en fonction des caractéristiques de l'école, va mettre en place ce projet d'école. Et le directeur d'école, il est là pour accompagner les professeurs, pour les faciliter leur travail pédagogique.
Madame la directrice, qu'en dites-vous? Et je donne la parole à Guylaine David dans un instant. Est-ce que alors, ce texte de loi qui arrive demain à l'Assemblée est de nature à améliorer vos journées, disons-le comme ça?
Alors, effectivement, l'amélioration par une aide administrative semble une bonne avancée. La simplification administrative, c'est déjà un dispositif qu'on nous a proposé à de nombreuses reprises avec un suivi au niveau départemental, ça a pour l'instant peu abouti, hein, donc c'est quand même une problématique qui perdure. L'amélioration du temps consacré à la direction, par contre, ça c'est vraiment une urgence et une nécessité pour nous, et une réflexion à mener sur le temps devant les élèves. Pour moi, c'est important de garder un contact avec les élèves, de rester enseignante, c'est ma mission première. Peut-être que ce temps peut être organisé différemment, sans avoir une charge de classe à temps plein, et peut-être pouvoir organiser ce temps de façon annuelle en fonction des urgences de la situation. Pour ce qui est du pilotage
en un mot,
pédagogique,
s'il vous plaît.
C'est la partie essentielle et le cœur de métier, effectivement. Et on a vraiment besoin de temps pour s'y consacrer. Parce que, vous le disiez, les réalités locales sont très variées. Et moi qui exerce en éducation prioritaire,
il faut du temps.
Fais face à de grandes difficultés par rapport à l'inclusion des élèves, par rapport à au maintien des élèves éventuellement d'une année sur l'autre. Et effectivement, on aurait besoin de gagner en autonomie sur tous ces dispositifs.
Merci Laurence Bourras d'avoir passé un coup de fil au standard. Guylaine David, est-ce que la proposition de loi que défend ici Cécile Rilac va dans le bon sens, libérer du temps, libérer plus de moyens pour les directeurs d'école?
Alors, elle va pas tout à fait dans notre sens, et pour de multiples raisons. En tout cas, sur la question de la décharge administrative et l'aide administrative qui pourrait être donnée au directeur d'école, la loi n'imposera pas aux communes de mettre en place un emploi pérenne qui permettrait, de secrétariat, qui permettrait d'aider les directeurs et directrices dans leur mission. On voit bien ce que dit cette directrice. Elle est accablée tous les jours par des tâches qui sont chronophages et qui sont diverses et variées. Donc il faut vraiment que ça s'impose aux communes et à l'État, puisque toutes les communes n'ont pas la possibilité de le faire. Donc il faut que ça s'impose. C'est vrai que la loi dit peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectées, mettre en place. Donc pour nous, c'est pas suffisant. Il est fort probable que les communes et l'État ne mettront pas en place l'année prochaine une aide administrative dans toutes les écoles. Il faut quelque chose. En plus, il faut une fonction pérenne de secrétariat qui permette de prendre toutes ces tâches administratives. Il y a aussi la question de l'allègement. effectivement, hein, la collègue l'a dit, il faut alléger. On est depuis des dizaines d'années, on a vu l'augmentation
des tâches
et des documents à remplir, à renvoyer à l'IEN, des choses qui sont chronophages et qui empêchent la mission première de
l'IEN, c'est l'inspecteur, c'est l'inspection de l'éducation nationale.
L'IEN, c'est l'inspecteur, ouais. Pardon. Et la mission première du directeur et de la directrice, c'est de coordonner et de piloter l'équipe pédagogique, ce collectif de travail où la collègue le dit très bien, elle est enseignante aussi dans ce collectif de travail, elle veut garder une charge d'enseignement. C'est ce qui fait l'école primaire en France, hein, depuis de nombreuses années. Et ça, c'est important qu'on garde ce caractère d'être enseignant et à la fois directeur ou directrice d'école.
Faire les deux, mais
en ayant les moyens, c'est ce que demandent les directeurs et directrices actuellement, c'est avoir les moyens pour faire correctement leur métier qui est de coordonner et piloter l'équipe pédagogique.
Et des moyens clairement fléchés, Cécile Rilax, que nous dit Guylaine David, c'est qu'il y a de belles intentions dans le texte, mais il n'y a rien de contraignant et du coup ça risque de ne pas se traduire sur le terrain.
C'est le problème de la loi, en effet. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment, lorsqu'on écrit la loi, on donne un cadre général pour l'ensemble des écoles. Aujourd'hui, en France, on a des écoles d'une classe et on a des écoles qui peuvent avoir jusqu'à 28 classes. Donc il faut qu'on puisse prendre en compte la diversité. Donc la loi, pour la première fois, va poser un cadre concernant le métier de directeur d'école. Aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme une fonction à part entière. Aujourd'hui, on dit que un directeur, c'est un enseignant avant tout, un enseignant comme les autres. Nous, ce qu'on dit dans cette loi, c'est que non, ce n'est plus un enseignant comme les autres, il a des responsabilités en plus. Il a des décisions à prendre. Et depuis 2015, malheureusement, on sait qu'il y a des graves décisions qui peuvent être prises et qui doivent être prises pour la sécurité des personnels et des élèves. Donc voilà, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on crée, on reconnaît qu'il y a un métier, un emploi de direction d'école.
Et est-ce qu'on le paye mieux?
Alors, ça fait partie des petites choses qu'on a inscrites dans le texte. Ils ont le droit donc à une indemnité particulière. Alors, Madame David dira qu'elle existe déjà.
Oui, elle sourit déjà.
Elle a d'ailleurs été déjà augmentée, puisque Jean-Michel Blanquer, qui avait donné, vous savez, la fameuse prime Covid, a décidé de la pérenniser. Donc, il y a déjà eu cette petite reconnaissance. Nous, derrière aussi, ce qu'on a inscrit dans le texte et qui est là, par contre, est une nouveauté, c'est qu'ils ont une accélération de carrière accélérée. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, puisque comme ils sont des enseignants comme les autres, voilà. Donc ce sont quand même quelques avancées.
Est-ce que ça fait d'eux des supérieurs des enseignants?
Non, ça ne fait pas d'eux des supérieurs des enseignants. Ils restent, et là, comme le témoignage a été apporté, et Madame David l'a dit, c'est très important, on conserve la collégialité, on ne touche pas au conseil des maîtres, on ne touche pas au conseil d'école, qui sont les deux instances de décision, mais par contre, le directeur d'école, demain, devra entériner et mettre en œuvre les décisions qui sont prises. Et lorsque l'on parle d'autorité fonctionnelle, par contre, c'est ce que le témoignage disait, c'est de permettre au directeur d'école d'avoir des simplifications, c'est-à-dire de pouvoir prendre des décisions sans être obligé à chaque fois de demander l'autorisation à leur inspecteur. Et donc d'éviter des pertes de temps, comme pour certaines sorties pédagogiques.
Et de l'administration.
Et des documents à remplir, exactement.
Guylaine David, pourquoi la possibilité de choisir les enseignants de la part des directeurs d'école, qui n'est pas dans le texte de Cécile Rilac, mais qui est la proposition d'Emmanuel Macron pour des écoles pilotes, pourquoi ça, c'est un gros mot?
Alors, c'est un gros mot. Alors, d'abord, juste pour revenir sur l'autorité fonctionnelle dans la loi, telle qu'elle est proposée, ne nous satisfait pas parce que cette question de l'autorité hiérarchique, elle est sous-entendue dans l'autorité fonctionnelle s'il n'est pas précisé dans la loi que le directeur n'aura pas d'autorité hiérarchique sur les enseignants. Dans la première version.
Donc, il y a une ambiguïté, vous dites.
Voilà, il y a une ambiguïté, il y a un flou. Madame Rilac, lorsqu'elle a proposé la première version qui était plus satisfaisante pour nous parce qu'elle. Ça stipulait directement que le directeur n'était pas le supérieur hiérarchique des enseignants. Pour nous, c'est, et pour les enseignants et les directeurs d'école, c'est fondamental actuellement. Et ça a été retiré par le Sénat et ça ne revient pas là après le passage en commission. Donc ça nous, c'est pas satisfaisant pour nous. C'est aussi pour ça qu'il y a un motif de mécontentement là actuellement des enseignants, des directrices et des directeurs qui vont certainement se mobiliser demain au moment de ce passage de la loi. Voilà pourquoi on n'est pas en accord. Après, alors,
Ma question sur le grand mot, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs quand on a dit directeur d'école, alors on parle de ce texte qui est important demain, mais qui pensent aussi à ce qu'a dit Emmanuel Macron, et qui se disent après tout, pourquoi pas, il y a des pays qui le font, la Finlande le fait par exemple.
Oui, il y a des pays qui l'ont fait, mais pas forcément, et ça s'est pas forcément bien passé quand ils l'ont fait. Alors,
en Finlande, par exemple, qui a de bons résultats à PISA, ça se fait.
Il y a d'autres pays qui l'ont fait, et qui ont moins bons résultats à PISA.
Alors pourquoi gros mot?
Pourquoi c'est pas, on va dire que c'est un mot qui nous satisfait pas, d'abord parce que ça n'existe pas actuellement. actuellement en France, mais ça pourrait déréguler tout le système. C'est-à-dire qu'on aurait des écoles à deux vitesses. C'est ce qui va se passer à Marseille. On va avoir des écoles pilotes où on va choisir les
mais
enseignants.
Après tout, si elles ont besoin de plus de... Si c'est des situations particulières, si elles ont besoin...
De quoi ont besoin les enseignants pour faire fonctionner et pour répondre à l'enjeu qui est les inégalités scolaires et comment on répond à ces enjeux-là. Il faut des moyens. Il faut des moyens humains et financiers. Il faut de la formation pour les enseignants. Et de choisir de façon subjective ces enseignants ne fera pas réussir de la meilleure façon les
Cécile Rilac, sur cette question, et on s'arrêtera là.
Peut-être brièvement, ce ne sera pas une sélection subjective. C'est-à-dire que, en fait, ce que le président Emmanuel Macron a dit, c'est que les directeurs d'école pourraient... en fait, avoir un profilage de leur poste. Donc, on ne déroge pas à la règle nationale, c'est-à-dire, voilà, ça serait plutôt des postes à profil. Donc, le mouvement n'est pas touché, mais au moment des commissions d'affectation, le directeur pourrait, aux côtés de l'inspecteur, venir, voilà, en disant, nous, dans notre école, on a ce projet-là, ça peut être le numérique, ça peut être les langues régionales, ça peut être plein de projets, et de dire, voilà, est-ce qu'il y a des enseignants qui sont intéressés pour travailler sur ce projet ? Et bien, dans ces cas-là, c'est mieux de les faire coller. Et s'il y a des enseignants qui ne veulent pas, eh bien, le projet n'aura pas lieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retirer d'une école un enseignant sous prétexte qu'il ne veut pas adhérer à ce projet-là.
Merci à toutes les deux d'être venues dans les studios de France Inter. 13h45.
France Inter, le 13-14.
Un ancien prof d'histoire vient de s'installer. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Le vif de l'histoire quand les hauts magistrats du Conseil d'État se penchent sur un baiser.
Oui, mais c'est une affaire juridique, hein. C'est pas du tout une chronique érotique, je vous rassure.
Bon, je suis presque déçu. Le feuilleton, une semaine dans la vie d'une médecin du travail. Aujourd'hui, quand une salariée ne veut pas se faire vacciner. Tout de suite, c'est une chanson. Mais non, je suis pas déçu. Bonjour Frédéric Pommier.
Moi, je suis déçu. Bonjour Bruno.
C'est un des écrivains français dont les livres se vendent dans le monde entier. Il est en plus, depuis quelques jours, ambassadeur de la Croix-Rouge, où il était sauveteur dans sa jeunesse. Marc Lévy, à votre micro aujourd'hui.
Et nous avons tout d'abord parlé de sa nouvelle mission, cette mission d'ambassadeur que Marc Lévy prend très à cœur.
J'ai toujours eu besoin, tout au long de ma vie, de me rendre utile du mieux que je pouvais. J'ai commencé avec la Croix-Rouge à 17 ans, et ça a été une expérience... pour moi, humaine, absolument extraordinaire. Et c'est entre autres grâce à la Croix-Rouge que j'ai compris très jeune à quel point une grande partie du bonheur, c'était les autres. Bon, j'ai passé 7 ans à la Croix-Rouge, puis je suis parti aux États-Unis. J'ai eu des périodes comme ça d'accompagnement avec d'autres associations humanitaires. Enfin, ça a toujours été un besoin. Et là, je dois dire que de retourner à la Croix-Rouge, en qualité d'ambassadeur de la Croix-Rouge, c'est aussi une très grande joie pour moi. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi, émotionnellement parlant, mais j'ai l'impression de rentrer à la maison. It's okay in the day, I'm staying busy. Tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately. When I catch myself. That everyone gets just disappears soon as the sun sets.
Et c'est un titre d'Amy Winehouse qu'a choisi de nous faire écouter Marc Lévy.
Wake up alone. Traduction.
Se réveiller seul.
Extrait de son deuxième album, Back to Black, lequel s'est vendu à plus de 11 millions d'exemplaires à travers le monde. 11 millions, c'est beaucoup.
Oui.
Une chanson qui, pour Marc Lévy, reste associée à l'écriture d'un autre succès. C'est Arrivé la nuit, l'un de ses derniers livres.
Le roman commence par une scène qui est difficile à écrire parce que c'est le personnage d'une femme dans la trentaine qui est seule dans son appartement à Oslo et qui attend un message dont dépend pas sa vie mais presque. Il y a tout un travail de réflexion sur où est-ce que je pose mon stylo. Est-ce qu'on est sur elle? Est-ce qu'on est sur l'appartement? Est-ce qu'on est sur l'ambiance qui règne à Oslo? Est-ce qu'on est sur le contenu de ce message et de son importance pour elle? Et puis il y a la chanson d'Amy Winehouse qui passe. Et là, c'est comme si d'un seul coup, le stylo sautait dans ma main. Elle me disait, la caméra, elle est sur elle. Elle est sur son regard, elle est sur sa voix. C'est elle qui existe avant tout, c'est elle qui prend tout l'espace. Et je sais que le personnage d'Ekaterina est né dans l'instant de cette chanson.
Quand vous entendez cette chanson-là en particulier...
Ça réveille. Vous avez comme ça des artistes dont la présence et le talent, vous vous dites, mais comment est-ce possible? Je suis athée, mais ça relève du divin. C'est comme il vous arrive dans les couloirs du Louvre ou d'un musée à Florence et vous tombez devant un tableau et vous dites, mais comment est-ce possible? Il y a une grâce, il y a une force, il y a une sensibilité, il y a une beauté. Et vous dites, mais c'est bouleversant de par la complexité des choses et en même temps leur apparente simplicité. Et Amy Winehouse, c'est vrai que j'ai eu la chance de la croiser une fois dans ma vie, au comptoir d'un bar de plage. On ne s'est pas parlé, j'aurais jamais osé l'aborder. Et déjà autour d'elle, il y avait une forme d'aura. Elle était pourtant pas du tout en représentation. Et puis récemment, je regardais un documentaire sur elle. Quand elle arrive sur scène, il y a cette fragilité du corps. Et puis au moment où la voix sort, tout à coup, vous avez l'impression que tous les vents de la terre sont entrés dans votre cage thoracique et vous soulèvent. Il y a un peu de piaf chez elle. Elle a parfois un peu le dos voûté. Elle s'accroche à son micro, mais quand elle y va, elle y va. Enfin, le divin, c'est ça, c'est d'y aller, elle y va.
Wake Up Alone d'Amy Winehouse, choix du romancier Marc Lévy, Frédéric.
Marc Lévy, romancier et nouvel ambassadeur de la Croix-Rouge.
À demain.
À demain.
Le feuilleton une semaine dans le cabinet d'une médecin du travail, le docteur Olfa Joigny. Elle exerce dans un centre de médecine inter-entreprise, des salariés de mondes très divers, restauration, informatique, culture, luxe. Et bien sûr, la question du vaccin est posée dans son cabinet. Voici une jeune femme malentendante qui a pris rendez-vous aujourd'hui alors qu'elle prend un nouveau poste dans une grande entreprise. Épisode 2 du feuilleton, signé Claire Chaudière.
Je vous la présente, c'est Madame Chaudière, c'est la journaliste. C'est juste micro et il n'y a pas votre nom.
C'est pour quoi faire?
C'est pour me suivre, moi, une journée avec un médecin du travail. C'est moi la star aujourd'hui. Ça vous va? C'est depuis la naissance, la surdité?
Ouais.
Est-ce que vous êtes vaccinée contre le Covid?
Non.
Pourquoi?
J'ai une grande peur, c'est la composition du vaccin.
L'ARN messager, c'est ça qui vous inquiète?
Ouais. Je ne sais pas du tout ce que c'est.
Ah bon? Et la rougeole, rayon rubéole, vous savez ce que c'est? Et le DT polio, vous savez ce que c'est la composition? Moi, je comprends que vous ayez peur, je comprends que vous vous posiez des questions, c'est normal. Il y a un cafouillage actuellement qui est terrible. Maintenant, moi, c'est mon rôle de vous expliquer aussi que c'est important d'être vacciné aujourd'hui. Souvent, on nous dit, c'est pas un vaccin classique, on ne connaît pas, on a inventé en 3 mois le vaccin, on ne connaît pas. Alors, la famille des coronavirus, on la connaît depuis 30 ans. On n'avait pas besoin de développer le vaccin jusqu'à présent parce qu'il n'y avait pas de pandémie, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin de faire un vaccin quand il n'y a pas de pandémie. Il y a la pandémie qui arrive, on connaît les protéines sur lesquelles il faut agir et on se dit, bah, on va développer le vaccin pour agir contre ces protéines-là qui permettent l'entrée du virus dans les cellules, etc. On a eu un nombre de volontaires pour ce vaccin qu'on n'a jamais eu pour n'importe quel autre vaccin. Incroyable, madame, jamais vu dans l'histoire de la médecine. Les gouvernements des pays riches ont mis sur la table des milliards d'euros en disant « Allez-y pour la recherche, là, dépêchez-vous ». Quand vous êtes 2 chercheurs pour chercher des choses, vous mettez 10 ans. Quand vous avez beaucoup d'argent et que vous êtes des centaines de milliers de chercheurs à chercher au même moment, ça va un tout petit peu plus vite, on est d'accord?
Ça touche plutôt la génétique?
Ah non, ça ne touche pas du tout la génétique, absolument pas. C'est pas le gène, il ne faut pas confondre l'ADN et l'ARN, d'accord? C'est une photocopie qu'on met, on vous dit, tu vois, lui, c'est celui qu'il faut tuer si tu le vois, d'accord? C'est ça l'ARN messager. Les policiers, c'est des anticorps qui regardent et qui disent, ok, lui, si on le voit, on le shoot, ok? On va reprendre le cours de la consultation sur le travail. Vous auriez besoin de logiciels particuliers? Vous avez besoin
oui,
de quoi?
Moi, j'ai un microphone qui me permet d'amplifier le son.
Ok. Bonne journée. Au revoir, madame. Donc, on prend l'état de santé du salarié. Donc, il y a tout le handicap à prendre en charge, comme vous avez pu le voir, les préconisations, les aménagements. Il y a la santé publique. Donc, là, il y a le Covid, c'est un grand sujet. Donc, vous avez vu, j'ai dû faire tout un laïus sur la vaccination, etc. Et je suis contente parce qu'elle sort de là, elle me demande un rendez-vous quand même de vaccination. Donc, j'ai gagné ma journée. En fait, la
crise du Covid a révélé ce rôle du médecin du travail pour certains employeurs. Moi, j'ai plein d'employeurs qui savaient très bien ce que je faisais. Hein. Ils me connaissent, ils savent ce que je fais, etc. en général. Mais ils ont encore plus vu. Lorsque le premier confinement est arrivé, comme tout le monde, on ne l'avait pas forcément vu venir. Moi, j'ai travaillé tous les jours. On a vu les salariés, on a vu les entreprises, les employeurs, les DRH, les partenaires sociaux. On a continué. C'était le chaos, mais on était le phare aussi au milieu de ce chaos-là. On était l'un des phares. Les protocoles sanitaires, il fallait le comprendre au premier, parce que là, maintenant, on a l'habitude. Mais le premier qui est sorti, il fallait le comprendre. Si on n'est pas présent au moment de crise, on est présent quand, finalement ? Je vais être très en retard aujourd'hui.
Le feuilleton, nouvel épisode demain. Reportage Claire Chaudière, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Une affaire rocambolesque semble avoir trouvé son issue après un arrêt du Conseil d'État qui concerne l'un des plus grands sculpteurs du XXe siècle, Constantin Brancusi. Il s'agit d'une tombe. Racontez-nous cette histoire, Jean.
Elle est racontée par l'excellent journal des Arts qui détaille dans son dernier numéro cet arrêt du Conseil d'État. Il y a au cimetière Montparnasse à Paris 42 000 tombes et l'une d'elles est depuis des années l'objet d'un coffrage et d'un étroit système de vidéosurveillance. Pourquoi ? Elle n'abrite pourtant qu'une inconnue, Tatiana Rachevskaya, disparue en 1910. Mais c'est que peu après sa construction, elle a été surmontée d'un des premiers baisers qu'a sculpté Brancusi dans le vif de la pierre.
Ce baiser, est-il clairement un baiser? Je vous pose la question parce que le phallus de Brancusi au centre Pompidou n'en est peut-être pas un.
Oui, alors Brancusi, qui est arrivé miséreux à pied de Bucarest, était devenu à Paris un assez joyeux drille, on va le retrouver plus tard, quasi fondateur du cabaret Le Bœuf sur le Toit, dont le patron Moïsès était surnommé Moïse sauvé des eaux minérales. La princesse Marie Bonaparte avait jeté son dévolu sur Brancusi et la princesse, elle était en perpétuelle recherche de l'orgasme introuvable et Brancusi lui avait sculpté ce phallus, mais il avait d'abord prétendu que c'était une jeune femme se penchant avec ses longs cheveux sur un miroir invisible. Non, là, je vous rassure, c'est incontestablement un baiser, même si, venu de la force intérieure de la pierre, la forme des deux corps est extrêmement simplifiée, il n'y a pas vraiment de visage, les jambes sont imbriquées, les bouches n'en font plus qu'une.
Et on peut vérifier facilement, on trouve l'image sur Internet. Brancusi ne cessera jusqu'en 45 de reprendre le thème, crayonnant un peu partout, notamment dans sa correspondance amoureuse. Mais là, le baiser surmonte une tombe, c'est important, préalablement édifiée.
La mort de la jeune Tatiana, qui est enterrée, c'était un suicide. Il s'est dit que le motif en était un amour déçu pour un médecin roumain de Paris, qui était par ailleurs ami de Brancusi, et la famille de Tatiana lui avait commandé l'œuvre. Depuis, les ayants droit de cette famille, qui ne sont pas nécessairement fidèles à ses intentions, ont manifesté la volonté de détacher le baiser de la tombe pour le vendre à l'étranger, ou en tout cas l'exporter. La statue n'est pas grande, mais elle est estimée très haut.
Mais le ministère de la Culture veillait ?
Oui, le ministère qui se souvient que Brancusi lui a légué son atelier qui a été inscrit dans un mastaba de verre au sein du centre Pompidou, encore toute une procédure. Le ministère a donc classé la tombe de Tatiana, qui n'en revient pas d'une telle célébrité, monument historique et même trésor national, aucune modification importante et certainement pas un prélèvement, ne peut être apporté à cette tombe sans autorisation et le baiser ne peut plus franchir les frontières.
Mais les ayants droit n'ont cessé depuis de s'affronter au ministère autour de cette définition. Attention, qu'est-ce qu'un immeuble ?
Oui, parce qu'il y a un immeuble par nature, la tombe plantée en pleine terre, mais la statue adjointe, est-ce que ce ne serait pas un immeuble par destination qu'on ne pourrait classer ? Alors un tribunal administratif a donné tort aux ayants droit pendant la première session. Deuxième session, une cour d'appel administrative leur donne raison et l'arrêt du Conseil d'État doit porter le coup de grâce. Le baiser restera au cimetière Montparnasse et l'œil maintenant averti des auditeurs d'Inter suffira à sa surveillance.
Oui, mais il y a la Cour européenne des droits de l'homme.
Oui, alors vous êtes pour, hein, je note. Brancusi, c'est un habitué des procédures interminables. De son vivant, ses oiseaux, parce qu'il a produit des oiseaux d'une extrême simplicité, s'était vu refuser le statut d'œuvre d'art par les douanes américaines qui les avaient taxés au prix fort. La presse avait ironisé, ce ne sont pas des oiseaux, ce sont des petites cuillères. Ou alors, si ce sont des oiseaux, il faut tirer dessus. Le procès avait été interminable. Alors la suite, demain peut-être.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, à demain. Donc bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Terreau carré, quel est le programme?
Eh bien on va parler de sobriété, Monsieur Duvic.
À tout de suite.